Bonne nouvelle les amis, vous êtes plusieurs à avoir ressenti les bénéfices du Theta Healing. Donc merci pour votre engouement, c'est une expérience extraordinaire que je vis avec vous au cours de chaque séance, donc merci, un grand merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Theta Healing c'est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite, de finances, d'amour. Et grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans son subconscient au niveau de sa génétique, de son histoire et de son âme. Alors je ne pratique plus les sessions à prix libre, cela dit, je pratique 3 tarifs différents pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce soin absolument extraordinaire. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Invité vous aide à vivre un accouchement responsable à travers une naissance positive et éclairée, notamment grâce à l'hypnobirthing, qui est une technique d'hypnose qui facilite le travail et l'accouchement grâce à une relaxation totale du corps et de l'esprit. Elle-même animatrice de podcast, Naissance Positive, nous allons au cours de cet épisode remettre en question les croyances au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Laura, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Laura, comment ça va?
Eh bien, ça va super. Merci de m'inviter sur ton podcast. Comment vas-tu?
Ça va, merci. Alors, je t'invite donc à t'introduire, à nous dire qui tu es, ton parcours, ton histoire et pourquoi tu as choisi ce domaine d'expertise.
D'accord. Alors, ben, Laura, hein, comme tu l'as bien dit, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud de la France, après avoir passé pas mal d'années en Angleterre. Je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois, et c'est pendant ma grossesse hein, que j'ai décidé de changer de voie. À la base, je suis ingénieure, je suis allée jusqu'au doctorat. J'ai passé à peu près 7 ans en Angleterre, j'ai travaillé dans la Formule 1, donc les voitures de course. J'étais ingénieure mécanique, donc je concevais des pièces. Ensuite, j'ai fait un doctorat avec l'équipe Mercedes, donc c'était la top écurie des F1, et qui ont sponsorisé mon doctorat Et voilà, donc j'ai travaillé là-dedans avec des capteurs de pression, des fibres optiques. Voilà, donc des années comme ça, une première carrière en ingénierie qui, en fait, était super intéressante. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait vibrer, en fait. Beaucoup de gens qui sont dans ces domaines-là, c'est des métiers passion, hein. Vu les heures de travail qu'on fait, la compétitivité avec les autres écuries, etc. Il faut aimer ce travail. Et moi, je pense que c'était un peu, la bonne petite élève qui a fait ça et ensuite qui a eu une opportunité, donc qui est allée faire ça, et puis si, et puis qui a eu une opportunité de faire un doctorat, donc bon, bah, on va pas la lâcher l'opportunité, on va le faire. Et en fait, voilà, comme ça, mais toujours à me dire, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Des fois, je faisais des heures pas possibles, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et ouais, c'est vraiment quelque chose que... c'était intéressant, mais c'était pas fait pour moi, en fait. Et c'est... Depuis très très longtemps, je sais que... mais c'était toujours difficile de se dire, il faut que je change, qu'est-ce que je veux faire. Et une chose que je savais, c'est que je voulais travailler avec les femmes et les enfants. Et ça, c'était depuis très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je voulais faire. Et pendant ma grossesse, justement, j'ai découvert l'hypnobirthing. Et je suis passée de... Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est l'accouchement. Je savais que je voulais être enceinte. J'ai toujours adoré les femmes enceintes, trouvées tellement belles. Mais après, voilà. Ma mère, elle avait eu des accouchements assez rapides, qui me disaient « j'ai pas eu le temps d'avoir la péridurale ». Donc pour moi, je me suis dit « bon, l'accouchement, on va à l'hôpital, on a la péridurale, sauf si on arrive quand ma mère à la dernière minute ». Mais voilà, enfin, voilà, j'avais pas trop d'informations plus que ça. Et justement, avec cette méthode où c'est basé principalement sur l'information de connaître son corps, la physiologie de l'accouchement, les hormones, les muscles, tout ça, et puis des méthodes de relaxation, si on veut ou pas, hein. C'est pas obligé, mais accoucher sans péridurale, mais on peut aussi accoucher avec péridurale. Et puis aussi, si on veut une césarienne, aussi comment la vivre de façon plus positive.
D'accord. Et d'ailleurs, cette passion pour le Formule 1, c'est quelque chose que tu avais depuis toute petite ou comment
ça arrive ? C'est pas moi, c'est mon père. Donc en fait, j'ai toujours pensé un peu que j'avais cette carrière pour lui. Et lui, il aurait adoré, il aurait tué presque pour avoir ce boulot. Et je pense que je l'ai fait un peu pour lui, toute cette carrière. Et maintenant, je veux faire une carrière pour moi, tu vois. C'est... La trentaine, tu changes un peu de... J'ai fait des choses pour les autres et maintenant je veux faire les choses pour moi.
Alors justement, là, est-ce que tu peux nous mentionner quelques croyances que tu as fait basculer entre ta vie où tu travaillais dans le Formule 1 et où tu respectais un petit peu finalement ce que ton père voulait pour toi et le moment où tu as basculé, tu as voulu vraiment faire les choses pour toi. Quelles sont les croyances que tu as pu remettre en question ? Est-ce que tu avais... peut-être peur de décevoir ton père ? Est-ce que comment tu as surmonté tout ça ?
C'est toujours un travail. Parce que ils ne savent toujours pas ce que je fais, mes parents. Alors que ça fait déjà voilà, quelques temps que je suis en reconversion. Ils ne savent toujours pas hein, que je suis en reconversion. C'était tellement un rêve pour lui et je sais très bien le genre de choses que je vais entendre, mais la Formule 1, tout le monde est toujours émerveillé. Mais oui, mais moi, c'est pas ce qui m'émerveille, tu vois. Ou t'es allé jusqu'au doctorat. Oui, j'ai fait un doctorat et ça m'aide tous les jours. Tous les jours, je sais comment faire de la recherche, je sais comment faire de la recherche critique, je sais comment analyser des données, tout ça. Et ça me sert tous les jours parce qu'il y en a des choses à analyser sur l'accouchement, sur toutes ces choses qu'on fait aux femmes. Et ça me tient vachement à cœur d'analyser, de pouvoir apporter un côté scientifique aussi. Je crois en corps de la femme et de qu'on sait comment accoucher, etc. Mais c'est vrai qu'apporter quand même un côté scientifique, des recherches, ça aide aussi. Donc, c'est encore mon travail, mais je me dis, j'ai fait tout ça, c'est pas en vain, c'est pas, j'ai fait toute cette carrière, je l'ai mis à la poubelle, ça me sert plus, non, tous les jours ça me sert, ça m'a appris une façon de travailler, jusqu'au doctorat, toute cette façon de travailler en Formule 1, cette compétition, toujours faut être au top, tout ça, ça t'apprend une façon de travailler, c'est pas grave si tu l'appliques pas à fabriquer des pièces, concevoir des pièces pour une voiture. Tu peux l'utiliser autre part.
C'est ça, c'est que toute notre vie, en fait, on apprend des méthodes plutôt et des process qui ensuite nous servent dans n'importe quel projet entrepreneurial, que ça soit un podcast, que ça soit des recherches effectivement sur l'accouchement. Il n'y a rien qui est jeté à la poubelle, et on le voit d'ailleurs souvent, les entrepreneurs hein, qui réussissent, c'est souvent ceux qui ont déjà travaillé dans des domaines totalement différents, mais pour lesquels ils ont appris des méthodes, des méthodologies vraiment précises et qui peuvent ensuite retransmettre dans leur projet entrepreneurial. Donc bien sûr, ça sert toujours.
Oui.
Comment toi, tu as vécu ton accouchement personnellement ?
Alors moi, donc je m'étais vachement préparée. Et justement, en me préparant, en faisant ça, et même en me formant après moi pour pouvoir enseigner cette méthode, je me suis dit, il faut que j'accouche à la maison, en fait. C'est là où on est le mieux, c'est là où on a moins de risques. Donc ça, ça a été tout un déconditionnement pendant plusieurs mois, parce que c'est pas ce qu'on pense au premier abord. Hein. Mais voilà... les études, elles montrent bien qu'on a moins d'interventions, qu'on a moins de problèmes, en fait, à la maison pour évidemment une grossesse qui se passe bien. Hein, je ne parle pas des grossesses à risque. Et donc, voilà, moi, je voulais accoucher à la maison. Et ce qui se passe, c'est que j'étais en Angleterre et en fait, c'est les sages-femmes de l'hôpital qui sont de garde qui viennent, en fait, à la maison si on a décidé d'accoucher à la maison. C'est pas comme en France où on va, entre guillemets, booker une sage-femme libérale qui sera là tout le long de la grossesse et à l'accouchement. Là, voilà, on a qui on a pendant son suivi et ensuite on aura qui on a de garde pour le soir. Et ils veulent une sage-femme pour la maman et une pour le bébé. Et en fait, le soir même, jusqu'au jour, hein, je savais pas trop où j'allais aller, mais j'étais préparée à toute éventualité. Et là, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas assez de sages-femmes, qu'il n'y en avait qu'une seule disponible. Et nous, on ne voulait pas du tout aller à l'hôpital. En plus, on était à 45 minutes. Et moi, j'étais déjà bien partie. Et donc, voilà, il n'était pas question que j'aille. Et donc, au final, ils nous ont envoyé une sage-femme qui ne nous a pas du tout plu et qui nous a un petit peu menti, en fait, pour nous faire transférer. En me disant que ma tension était trop haute. En même temps, j'étais dans un bain chaud et elle avait toujours été parfaite, ma tension. En disant qu'elle ne pouvait pas vraiment entendre le cœur du bébé. Enfin, voilà, un petit peu voilà, pour nous faire transférer, quoi, pour nous faire peur. Ensuite, elle avait appelé une sorte de SAMU là-bas pour nous faire transférer sans nous demander notre permission, mais bon. Et donc, je me rappelle encore être dans mon bain toute nue et de lever la tête là, et j'étais déjà dilatée à 6 hein, à ce moment-là, et là je lève la tête et je vois un homme en plus assez grand, assez fort, assez âgé, qui regarde comme ça dans ma salle de bain, et moi j'étais toute nue dans mon bain quoi, et c'est en fait c'était cette équipe qu'elle avait appelée. Et en fait, on ne savait pas trop, est-ce qu'elle va nous laisser tout seul, est-ce qu'elle va rester avec nous, et puis il y avait eux qui étaient là, on les avait appelés, et ce qui fait qu'on s'est fait transférer quand même. Mais après, là-bas, justement, mon compagnon, il a bien compris son rôle, donc grâce à lui, j'ai pu éviter, je pense, la cascade d'intervention qu'on a justement en maternité. Parce que moi, j'étais vraiment dans ma bulle et c'est lui qui a vraiment fait la communication avec l'équipe. Il savait très bien ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et donc, la sage-femme qu'on a eue là-bas, elle était vachement sympa et j'ai accouché en quelques heures, voix basse, sans péridurale, parce que c'était ce que j'avais prévu chez moi. Donc, c'est ce qui s'est passé là. On a réussi à suivre ce projet quand même. Et comme on voulait rester chez nous, on est parti au bout de quelques heures. On n'est pas du tout resté. Ils nous ont proposé, mais on n'avait pas envie de rester là. Et en fait, ça m'a pris un peu de temps de faire, entre guillemets, le deuil de cette naissance, parce que j'avais vraiment envie de rester chez moi, d'être dans mon cocon, et j'avais l'impression que j'avais échoué, en fait, mon accouchement. Et il m'a fallu un peu de temps, parce qu'au final, tout s'est bien passé comme j'avais voulu. J'avais géré jusqu'au bout, sans rien, sans aide, etc. Mais j'avais eu un petit peu cette déception qui a un petit peu duré jusqu'à ce que je fasse un travail, que je me dise « mais non, en fait, tout s'est bien passé ». Et puis c'était ce que je devais vivre. Et voilà.
Alors, donc maintenant, on va un peu plus parler justement des croyances limitantes au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Donc, quelles sont celles que toi, tu as pu remettre en question au cours de ta vie ?
Alors, Il y en a une qui me vient même avant, tu vois, d'être enceinte. J'ai pas trop galéré, moi, mais je sais que ça arrive à beaucoup de femmes, tu vois. Ce que j'avais, moi, en tête, c'était qu'on pouvait tomber enceinte tout le temps, tu vois. Et en fait, j'avais un peu cette peur, cette honte de tomber enceinte, tu vois, quand j'étais jeune, en fait, de me dire. Je sais pas si ma mère, elle m'a mis quelque chose dans la tête, tu vois, faut pas être maman jeune ou j'en sais rien, il faut faire des études, il faut que tu sois indépendante et tout ça. Et en fait, j'ai eu ces petits trucs que j'avais presque honte. Je voulais être enceinte, mais j'avais presque honte. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et en fait, en apprenant mon corps, je me suis dit, mais en fait, on tombe pas enceinte n'importe quand du mois, quoi. Et surtout, celles qui ont du mal pourront vraiment le dire. Il y a vraiment une fenêtre qui est assez petite, quoi. Et déjà, ça, d'apprendre mon corps, de savoir de cycle, les super, de toutes ces phases du cycle, ça, il me semble d'ailleurs que tu as fait un épisode, j'ai écouté. Et j'ai totalement d'accord et j'adore le fait qu'on est tellement incroyable, je trouve, les femmes, de se dire que ben, pendant ces jours-là, c'est ton moment où tu vas pouvoir créer plein de choses pour ton entreprise si tu es indépendant ou pour même si tu es employé, bien évidemment, que là, tu peux faire tel style de sport et ça va vraiment t'aider et que après c'est plutôt du repos. Enfin, il y a vraiment plein de démarcations en fait dans notre cycle et ces hormones, on en reparlera après pour l'accouchement, mais ces hormones qui sont un peu qui nous prennent un peu par le bout du nez, qui font un peu ce qu'elles veulent avec nous quoi. Et elles sont tellement importantes, mais en même temps on peut vraiment jouer avec et faire d'avoir une vie en phase avec son corps, quoi. Et je trouve ça trop intéressant. Et donc voilà, déjà je trouve qu'il y a cette croyance surtout qu'on nous met jeune, c'est qu'on peut être enceinte en même temps, donc faut faire attention, etc. Machin. On prend des pilules qui nous font pas spécialement du bien très tôt pour des raisons qui sont pas les bonnes, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, ben non, ça sert à rien de prendre la pilule. Pour pas tomber enceinte, voilà. Et que apprends ton cycle plutôt, et tu verras que souvent, je pense, en plus, quand on est jeune, on doit avoir un cycle assez régulier, hein, tous, je pense, plus ou moins. Donc apprends ton cycle et tu verras que tu tomberas pas enceinte toutes les 5 minutes. C'est pas vrai.
Ouais, il y a une vraie pression sur les femmes par rapport à ça, alors que bon, on est quand même deux hein, dans la relation sexuelle. Donc
En plus,
déjà,
ouais.
c'est pas juste. Premier point. Et deuxième point, oui, alors justement, j'ai fait un épisode qui est sorti en janvier, donc très récemment, sur la symptothermie, qui est une contraception donc naturelle justement d'analyse des données de notre cycle. Donc il y a rien d'improvisé. Hein, c'est vraiment quelque chose. D'assez approfondi, où on va vraiment analyser des données avec des graphiques et tout. On va analyser notre glaire cervicale, notre température avec un thermomètre basal pour bien qu'il y ait la virgule, pour que ce soit très précis, pour vraiment voir quand est notre ovulation et surtout d'avoir une période de sécurité parce qu'on ovule qu'un seul jour, mais comme les spermatozoïdes restent 5 jours, et ben voilà, il faut bien tenir une fenêtre de sécurité avant et après l'ovulation. Donc tout ça, c'est des données qui s'analysent. Aussi, il faut savoir que notre cycle n'est pas toujours régulier, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, bah voilà, l'ovulation, elle aura lieu à peine 10 jours après les règles, ou parfois un peu plus long, 20 jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a rien qui est fixé en fait. Et la symptothermie, c'est la seule voilà méthode naturelle qui nous permet vraiment de voir quand a lieu l'ovulation sans calculer, sans anticiper. Et calculer sur des données improvisées. Donc voilà, ça amène effectivement à une vraie connaissance de soi et de son corps.
Ouais, qui est quand même assez incroyable.
Voilà, et c'est même donc, selon l'indice de Pearl, c'est même donc plus fiable que la pilule, encore plus.
Ouais, moi ça m'étonne pas. Parce que si tu vois, moi j'ai arrêté la pilule avant même de décider d'être enceinte, parce que, enfin, La pilule, ça fait longtemps, j'avais un implant qui ne me convenait pas du tout. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, ben, je vais suivre mon cycle, en fait. On fera attention à ce moment-là, et j'ai suivi mon cycle. Et j'ai passé 3 ou 4 ans sans contraception, sans tomber enceinte une seule fois. Et quand j'ai décidé de tomber enceinte, je suis tombée enceinte au premier cycle. Donc, donc suivre son cycle, ça marche.
Oui, bon, je le confirme. Puis, justement, avec Eugénie, donc, qui est formatrice en symptothermie, on parlait des croyances qui orientent aussi notre corps. Donc, quand on a une forte croyance inconsciente et consciente d'avoir un enfant, et ben boum, ça arrive. Donc, forcément, quand on se conditionne, on se dit non, je n'aurai pas d'enfant. Oui, ben forcément, ça influe aussi notre corps.
Oui, oui. Bon, après... peut-être pas partir là-dedans, mais moi, je crois à 100% à la loi de l'attraction, tout ça. Donc, tout ce qu'on envoie, ça nous revient. Donc, mais on va parler vraiment des croyances qu'on a, parce que je pense pas tout le monde est dans cette optique non plus.
Oui, alors moi, j'en pense à une, notamment, qui serait l'accouchement est extrêmement douloureux, d'où l'arrivée de la péridurale. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Eh bien... Moi, personnellement, je ne savais pas trop où me mettre. Ce qu'il y avait, c'est que tout ce que j'entendais autour de moi, c'était souvent négatif. C'est très rare qu'on nous raconte des belles expériences. Donc, c'est ce que je fais moi sur mon podcast, hein, c'est de partager des expériences positives pour justement essayer de ne pas biaiser justement ces croyances qu'on peut avoir. Moi aussi, il peut m'arriver ça, etc. Et plutôt, moi, il peut aussi m'arriver un super bel accouchement. Et donc, ce que j'avais autour de moi, c'était ça. Et aussi, presque, c'est automatique qu'on ait une péridurale, parce que pourquoi on irait souffrir, en fait? Et ce qu'on ne nous dit pas, quand même, c'est que la péridurale, ça peut affecter énormément l'expérience de l'accouchement, surtout au niveau des hormones, en fait. Et ça, c'est des recherches que j'ai faites récemment. Et en affectant, en fait, ces hormones, ce cocktail d'hormones que tu devrais avoir pendant l'accouchement, ça va affecter aussi après l'attachement avec son bébé. Et ça, c'est des choses que on sait pas, parce que déjà, quand on va voir un anesthésiste, il va nous dire qu'il peut avoir ça qui arrive ou telle chose qui arrive. Mais on va pas nous parler que les hormones, elles vont être réduites, qu'on n'aura plus d'ocytocine. Voilà. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qui fait qu'on a des contractions efficaces. Et donc, qu'on a un accouchement qui peut être moins long, moins douloureux. Parce que quand on produit nos ocytocines, on produit aussi nos endorphines. Donc, quand on est vraiment dans sa bulle comme ça, il y a même des femmes... Donc, moi, je n'ai pas vécu ça, hein, mais il y a des femmes qui parlent d'accouchement orgasmique. Donc, ça, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Mais on est quand même... moi, par exemple, qui n'ai pas eu la péridurale, et des femmes qui m'ont parlé aussi de, une fois qu'elles ont eu la péridurale, ça les a totalement changé, je ne sais pas comment dire, mais d'état d'esprit, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, toutes ces hormones, parce que les hormones de l'amour, de l'ocytocine, ça te met quand même dans un état un petit peu second, quoi. Et ça te fait produire des endorphines. Donc, en fait, ça t'aide à réduire la douleur. Donc, si on reste, en fait, dans son cocon, donc là, ça serait parler des accouchements à domicile ou alors des accouchements respectés en hôpital avec des lumières tamisées, etc. Si on reste là-dedans, évidemment, chacun a sa jauge de douleur. Mais si on reste là-dedans, en fait, ton corps, il va produire ce qu'il faut pour que soit tu sois un peu dans cet état de conscience altérée et qu'en plus, tu produises tes endorphines. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'est pas en train de se promener dans un parc, hein, mais en fait, on arrive en fait à surfer, parce que aussi, une contraction, c'est pas constamment, c'est pas genre je suis en travail pendant 10 heures et pendant 10 heures j'ai mal. Une contraction, ça vient, il y a un pic et puis ça repart. Et entre, il y a du repos. Et si on apprend à se reposer, à respirer, donc toi, un peu de l'hypnobirthing, l'hypnonaissance, voilà, des méthodes de relaxation, eh ben, on se repose entre. Donc, en fait, ça va évidemment augmenter en intensité, mais ça ne va pas augmenter de façon que tu ne peux plus supporter, parce qu'en fait, entre, tu t'es à chaque fois reposé. Donc, c'est comme si tu faisais du sport et puis tu courais, puis après tu te reposes, tu cours, tu te reposes. Tu arrives à durer dans la longueur. Et en fait, un accouchement, c'est intense, mais quelque part, c'est, si tu suis ton corps, etc., c'est pas douloureux. Parce qu'il y a aussi des femmes qui m'ont parlé d'être... on les avait obligées à se mettre sur le dos, tu vois, par exemple, pendant l'accouchement, les pieds dans les étriers, etc. Et ça, elles ont ressenti tout de suite plus de douleur. Parce que quand on écoute son corps, ton corps, il va te faire bouger. Moi, à un moment, elle me disait que ça durait trop de temps, que la tête de mon bébé n'était pas alignée avec son corps, et que c'est pour ça que ça durait. Et en fait, inconsciemment, je me suis mis allongée sur le côté, et c'est comme ça que j'ai donné naissance. Alors qu'il voulait intervenir, et ben mon fils est né, tout seul. Parce que là, moi, je ne poussais plus, j'avais plus envie, et en fait, chaque contraction a fait que ben, il est sorti, quoi. Et j'ai poussé à la fin. Mais tu vois, aujourd'hui, je pourrais même pas te dire ce que c'était la douleur, alors que j'ai accouché sans péridurale, tu vois, je l'ai ressenti tout le long, j'ai perdu les os à 2h et il est né à 5h du matin après, donc tu vois, ça a duré quand même. Mais je pourrais pas te dire ce que c'était comme douleur, alors que je me rappelle encore quand mon frère m'a fait tomber, il m'a cassé le poignet, ça je m'en rappelle. Mais c'est, je pense que la plus grosse croyance qu'on a sur l'accouchement, Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui doit nous accoucher. En fait, c'est de remettre la responsabilité vers quelqu'un d'autre, qu'on a besoin du personnel médical. Je ne dis pas qu'on devrait tous accoucher chez soi, tout seul. Ce n'est pas ce que je dis, tu vois. Mais qu'une fois qu'on a franchi le pied de la maternité, l'hôpital, en fait, on se retrouve un peu dans cette position de patient avec l'autorité médicale. Il faudrait qu'on réussisse à se détacher de ça, tu vois, de se déconditionner et de se dire, en fait, comment est-ce qu'une personne qui est en face de moi, qui n'est pas en train de vivre l'accouchement, peut savoir mieux que moi? Et on a tellement cette croyance de dire, ben, on va les écouter parce qu'eux, ils savent. Le personnel médical, il sait, ils en ont vu des accouchements, ils savent tout ça, tu vois. Mais en fait, non, toi, c'est ton corps. Et eux, ils vont suivre des protocoles, tu vois, ben, t'es dilaté à temps, dans une heure, tu seras dilaté à temps, tu vois, il y a un peu ces protocoles comme ça. Alors que combien de femmes avec qui j'ai parlé, elles sont passées de 6 à 10 en 45 minutes. Donc, c'est pas 1 cm par heure. Et ça, c'est d'écouter son corps, de se faire confiance, qu'on est capable, je veux dire, personne nous a dit comment ovuler, personne nous a dit comment... faire grandir son bébé pendant 9 mois dans son ventre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit comment il faut accoucher? Ça,
il n'y a qu'à voir les autres mammifères.
Exactement.
Les autres mammifères, c'est instinctif. En fait, l'accouchement, c'est quelque chose d'instinctif. On n'a pas besoin d'apprendre à le faire. D'ailleurs, j'en parlais avec une sage-femme au Brésil, justement, qui aide les femmes à accoucher chez elles. Et je lui posais des questions. Alors, est-ce qu'il faut entreprendre des massages, des plantes avant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer le corps? Elle me dit, ah non, mais ton corps, il s'est accouché. Hein.
Oui, super, elle peut venir ici, cette jeune femme.
Ouais, elle me dit, ton corps, il s'est accouché. Alors après, oui, les massages, les plantes, la respiration, tout ça, c'est très bien. Mais même si tu fais pas ça, ton corps, il saura accoucher le jour.
En fait, tu vois, ça, moi je suis totalement d'accord. Je dirais que techniquement, si on était comme les animaux, si on était dans une autre société, on n'aurait pas besoin de se préparer, on n'aurait pas besoin de savoir la physiologie de l'accouchement, on n'aurait pas besoin de connaître des méthodes de relaxation, on n'aurait pas besoin de dire à son chéri comment nous masser, etc. On n'aurait pas besoin de tout ça, on saurait faire. Le problème, c'est qu'on va dans des hôpitaux, on va dans des maternités, et là on est perturbé. C'est pour ça que, pour moi, pour vivre une expérience qui est positive, il faut être préparé. Parce qu'on a, on n'a pas la place, en fait, d'être comme les animaux et d'être dans un coin de la maison, dans le noir. Il y a des femmes de plus en plus qui accouchent seules. Et c'est d'ailleurs les plus belles expériences que je reçois sur le podcast. Mais si on veut accoucher de façon... physiologique, naturel, respecté en hôpital, il faut se préparer. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin. Sinon, je te dirais, il n'y a pas besoin, tu sais faire, ton corps, il sait faire. Mais quand on arrive voilà, dans un hôpital, qu'on est face à l'autorité médicale, on ne peut pas rester dans sa bulle comme ça. C'est pour ça que le compagnon, ça c'est une autre croyance, qu'ils sont là en spectateur et qu'ils font rien. Bah si, justement, c'est à eux d'être super à fond sur leur rôle qui est de protéger. En fait, c'est le défenseur de la caverne à l'époque préhistorique, tu vois. Où là, ben, on protégeait des lions, de je sais pas quel animal sauvage était autour, quoi, des dangers. Et ben c'est un peu pareil là, sauf que bon, ben, c'est pas des dangers comme ça, évidemment, mais c'est ben, les dangers, entre guillemets, des protocoles, de ben, toutes les femmes ont un accouchement qui devrait durer 41 semaines, tu vois, ça encore une fois... Ça, c'est basé sur des études qui ont fait des études sur 200 femmes. On est toutes différentes, on a toutes des cycles différents, tu vois. Et on déclenche en fait des femmes pour des raisons de dates qui sont même pas souvent vraies par rapport aux échographies, par rapport à un cycle qui n'est peut-être pas régulier comme on en parlait. Et je parlais avec une auxiliaire de périculture qui travaille en salle de naissance, qui m'a dit en 2 ans, j'ai jamais vu une seule naissance pareille. Donc, pourquoi ne pas faire confiance en les femmes et ne pas leur appliquer tous ces protocoles qui font qu'elles ont des expériences ben, soit traumatisantes, soit peut-être ça ne s'est pas passé exactement comme elles l'ont voulu et en fait, elles ont subi, tu vois, leur accouchement. Elles ont accepté des choses sans vraiment qu'on leur explique quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que, oui, il faut faire confiance en son corps. Mais si on va en maternité, je pense qu'il faut se préparer même à fond.
Non, bien sûr. Et d'ailleurs, on va en parler, mais les femmes prennent aussi de gros risques en accouchant chez elles. Les sages-femmes prennent des gros risques pour aider les femmes à accoucher chez elles. Mais avant, justement, ça me fait penser à une croyance aussi que tu avais mentionnée sur ton compte Instagram, qui est la croyance que il faut pas manger avant d'accoucher si jamais doit y avoir une césarienne. Alors, ce qui est totalement absurde.
Oui. Mais ça me fait...
Que notre corps se prépare vraiment à un marathon et nous, on le
prive.
On le prive d'eau et de nourriture. Non, mais c'est quand même affolant.
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a celle-là et puis il y en a une autre qui me fait sortir ma tête, c'est que le placenta a une date de péremption. On en revient après. Hein. Ouais. Celui-là, faut pas manger, faut pas boire. Alors, après, on a envie, on n'a pas envie. Moi, par exemple, je n'avais pas spécialement faim. Mais alors, boire, c'est impossible de 2h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin de ne pas boire. C'est quand même la chose la plus vitale du corps humain. Et quand on est comme ça en train d'accoucher, on a ces muscles qui travaillent à chaque contraction. On doit respirer si on a appris à respirer, etc. Donc, il y a tout ce sang qui a besoin d'énergie, donc qui vient de l'eau ou qui vient de... si on veut manger. Et là, on nous demande, parfois ça peut durer des heures, hein, de faire un marathon et on ne nous donne pas à boire, on ne nous donne pas à manger. Et j'ai même appris, alors moi je n'avais pas demandé la permission, j'avais ma bouteille de 2 litres et puis j'avais mon chéri qui me donnait à boire à chaque contraction, à chaque pause entre les contractions. Mais je sais pas, je veux dire, pour si jamais ça finit en césarienne, si vous avez mangé juste avant, ça change quoi avec quelqu'un qui serait là depuis 4 heures et qui mange si vous devez avoir une césarienne avec une anesthésie générale, ben, on vous mettra en tant que personne qui a le ventre plein. Comme si jamais il y a un accident de la route, par exemple, pareil, ben, une personne qui a le ventre plein. Voilà, tout simplement.
C'est bien que tu le mentionnes, parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient d'avoir un accident et qui doit absolument être opéré, si la personne vient de manger, il n'y a pas trop le choix. Hein.
Non, on attend, madame. Hein. Exactement, c'est exactement la même chose. Mais en fait, c'est toutes des choses... ça me fait mal, tu vois, de dire ça, parce que ça me fait mal qu'on fasse ça aux femmes. Tu vois, j'ai entendu, on m'a obligée à avoir la péridurale et on m'a dit ça comme excuse. Mais ça, c'est parce que, tu vois, même j'ai une femme qui m'a parlé de son accouchement en siège et on lui a obligé d'avoir la péridurale. Parce que ben, ils veulent pouvoir intervenir sans problème, tu vois. C'est pour ça qu'ils veulent que tu aies une péridurale et qu'on te met un peu ces peurs que tu vas avoir une césarienne avec une anesthésie générale qui est vraiment très rare. Ça arrive dans très peu de cas. Hein. Et de boire, je veux dire, ça veut dire qu'on peut pas... je ne sais pas si tu as déjà eu une opération, mais je veux dire même, je pense que l'heure d'avant, tu as quand même encore le droit de boire de l'eau. Je ne vois pas le problème là-dessus. Et je me dis, ces personnes, elles ont été formées à l'accouchement, elles ont été formées, j'espère, à la physiologie quand même, et puis au corps humain. On le sait quand même que le corps humain a besoin d'eau. Surtout... si ça dure des heures. Et j'ai entendu par des femmes en France qu'en fait, on vaporise un petit peu d'eau dans leur bouche. Voilà, comme on les hydrate. Donc, oui. Voilà. S'il doit avoir une anesthésie générale, ben, on vous considérera comme quelqu'un qui a le ventre plein. Donc, ce n'est pas un problème. Et ensuite, c'est souvent très rare aussi que l'urgence d'avoir une césarienne soit si urgente qu'en fait, on n'ait pas le temps de faire une péridurale. Parce qu'une péridurale, ça ne prend pas non plus 3 heures. Et si jamais ça a été tellement urgent, bah c'est peut-être parce qu'ils ont mal géré les choses aussi et qu'ils auraient pu se préparer un petit peu avant. Donc, si jamais ça vous est arrivé, c'est aussi bien d'y penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des interventions à la chaîne qui a fait que ben, j'ai dû me retrouver en anesthésie générale pour une césarienne.
Oui, il y a une raison à ça, en fait. C'est pas arrivé par hasard.
C'est ça.
Moi, je sais que ma maman, lors de mon propre accouchement, a complètement défié le gynécologue et a mangé absolument toutes les madeleines du distributeur de l'hôpital. Voilà.
Ouais, ta mère, c'est un héros.
Ouais, totalement, c'est une héroïne, ma maman. Et justement, en fait, ça durait tellement de temps parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Voilà, le 2 août 1996, la clinique était pleine à craquer. Et donc, elle n'en pouvait plus d'attendre et sans manger, sans boire, avec les contractions, elle s'est dit « Non, mais ça n'a pas la tête, moi, je mange
!» Bah oui, bah évidemment.
Donc voilà, elle a complètement défié toute l'équipe médicale. J'adore ce type de comportement.
Moi aussi.
C'est peut-être pour ça que j'ai un caractère révolté, je crois.
Mais c'est bien, prenez exemple sur la maman d'Anaïs. Mais tu vois, ce que je me dis, c'est que, en fait, quand on entre à l'hôpital, pour quoi que ce soit, en fait, et surtout, c'est quelque chose que je dis aux mamans, c'est si possible, venez avec vos habits. Ne mettez pas, en fait, la blouse de l'hôpital. Parce que dès que t'as mis ça, bah, t'es impatient dans ta tête. Tu vois, c'est inconscient. Alors que, je suis désolée, être enceinte et accoucher, ce n'est pas une maladie, pour la plupart des femmes, évidemment. Il y a des fois des complications, on est bien d'accord. Mais pour la plupart des femmes, où ça se passe bien, nous ne sommes pas malades et nous ne venons pas à l'hôpital parce que nous sommes malades. Nous venons pour avoir une sécurité si jamais il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on rentre comme ça et qu'on se met cette blouse, en fait, on n'ose plus. C'est comme à l'école, tu vois, l'autorité du maître d'école, la maîtresse. Ben là, c'est pareil, on est conditionné pour écouter, pour faire confiance, qu'ils savent mieux, même quand ça ne résonne pas avec nous. On a du mal à dire non, on a du mal à poser des questions. Et c'est là où, moi, je dis que le compagnon, c'est là où il faut vraiment que ce soit une doula si jamais le conjoint, la conjointe, elle n'est pas capable, en fait, d'assumer le rôle. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Tu vois, les femmes qui sont toutes seules, c'est souvent compliqué. De pouvoir dire, ben, oui, ok, ça fait tant de temps, et alors, on peut attendre, tout va bien. Comme moi, par exemple, tout allait bien, on n'a pas besoin d'intervenir. Et puis, si vous faites ça, pourquoi, quelle raison? Et de pas se laisser faire, en fait, de reprendre la responsabilité de son accouchement, de son corps,
Tout en ayant confiance.
Voilà,
tout en ayant confiance. Parce qu'on voit souvent le corps médical comme le sachant, le médecin sachant, et donc on remet effectivement notre responsabilité entre ses mains, hein. Que ce soit pour l'accouchement d'ailleurs ou toutes les maladies qu'on peut avoir, la santé, etc. Hein.
Oui, et ce qui est vraiment dommage, c'est que, comme tu dis, pour les maladies, des fois, on sent qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire différemment ou que tel protocole de soins, par exemple, ne convient pas. Et en fait, on n'ose pas faire. Il faut vraiment un énorme travail pour aller à l'encontre du médical, vraiment à l'encontre. Et là, quand on accouche et qu'il y a des femmes qui ont dit « mais moi, j'ai besoin de bouger », et qu'on leur répond « mais moi, je ne sais pas accoucher d'autre que de les pieds dans l'étrier, mais écoute, en fait, je n'ai pas besoin de toi pour accoucher mon bébé, en fait. Et là, j'ai besoin de bouger. Si mon corps a besoin de bouger, c'est bien parce qu'il y a une raison. » Et c'est vraiment d'aller à l'encontre, en fait, de ces recommandations, se rappeler toujours que c'est des recommandations, en fait. Il n'y a rien n'est obligatoire et il y a même des lois sur ça où on peut refuser des soins. Rien n'est obligatoire.
Alors justement, comment on peut accoucher sereinement, donc chez soi, en prenant une doula, une sage-femme? Donc on le disait tout à l'heure, elles prennent des risques, ou alors elles prennent des assurances extrêmement chères qu'elles ne peuvent de toute façon pas se permettre. Donc comment on peut accoucher sereinement chez soi?
Oui, il y a vraiment très peu de sages-femmes. Moi, je suis dans la région Alpes-Maritimes, PACA, et je crois qu'on n'en a qu'une. Donc, ça ne fait pas beaucoup.
Wow.
Je ne sais plus le nombre, mais je crois qu'il y en a peut-être une quarantaine, quelque chose comme ça, dans toute la France. Donc, c'est vraiment très peu. En fait, déjà, c'est peut-être de se dire que techniquement, il n'y a pas de risque d'accoucher. Voilà. Déjà ça. je sais que souvent, quand on s'enlève de son cocon, donc voilà comment être sereinement, c'est d'être dans son cocon, d'avoir des lumières tamisées, d'être vraiment... si jamais t'as des animaux, des chats, comment est-ce qu'ils accouchent, tu vois, dans un coin de la maison sombre, seul, en fait. Et quand on a fait cette démarche de se dire, ben voilà, soit on a eu quelque chose de traumatisant à l'hôpital, on ne veut pas revivre ça, soit on a déjà fait nos recherches et on s'est dit, ben en fait, oui, il n'y a pas de raison d'aller à l'hôpital. Donc si on trouve une sage-femme, déjà c'est de se faire confiance, de partir, de faire ce cheminement, de se dire, en fait, un accouchement, il n'y a pas de risque. Quand je vais aux toilettes pour faire mes besoins, il n'y a personne qui est là qui me tient la main. Et techniquement, accoucher, c'est comme faire une grosse commission, tu vois. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus intense. Mais en fait, le corps sait faire. Il y a l'éjection, le réflexe d'éjection au moment où le bébé doit sortir. Moi, je l'ai énormément vécu, ce réflexe, en fait, tout le long, même dans l'ambulance. C'est pour ça que je pense que j'étais prête bien avant. Et arriver à l'hôpital, en fait, ça a ralenti les choses. Donc, quand on reste dans son cocon, donc on écoute son corps, on l'écoute si jamais il a besoin de bouger. Et c'est de faire confiance, de connaître la physiologie, puisque même à la maison, il faut quand même avoir confiance, de reconnaître des étapes. Il y a l'étape où, juste avant que son bébé arrive, on va plus être dans cette conscience altérée, en fait, d'ocytocine, de cocktail d'ocytocine, d'endorphine. Et là, en fait, le corps te dit « Eh oh, faut se réveiller, ton bébé va arriver. » Et là, il y a un switch et c'est l'adrénaline qui prend le devant, tu vois, pour te réveiller, pour te dire « Maintenant, ton bébé arrive, faudra que tu l'attrapes, etc. » Et pendant cette phase-là, qui est vraiment importante à se rappeler, parce que c'est là où toutes les peurs, toutes les croyances qu'on a vont ressortir. Donc, si on a fait un gros travail avant, il y en aura peut-être moins. Mais c'est là où bah, y a peut-être des femmes qui veulent accoucher à la maison et qui vont se dire bah, « Non, je ne peux plus, appelle les pompiers ou on va à la maternité. » Et à ce moment-là, on a ces propos-là « Je ne veux plus accoucher, je ne peux pas le faire, j'ai peur, etc. » Parce qu'en fait, c'est l'adrénaline qui reprend le dessus. Et si jamais ça vous arrive, ben, sachez que bébé arrive entre une demi-heure et une heure suivant. Et cette phase, elle est très très courte, mais c'est là où en fait, les accompagnants, s'ils ne sont pas au courant, c'est là où on peut paniquer et se dire « Mais attends, depuis tout à l'heure, elle gère, mais là, il y a un problème. Elle ne veut plus, elle a mal. » Enfin, tu vois. Donc, c'est bien de connaître cette phase. Et c'est dommage, j'ai l'impression qu'en maternité, on oublie en fait que c'est ça. Parce qu'il y avait des femmes qui demandent la péridurale à ce moment-là, qui l'ont, et c'est leur bébé qui arrive une demi-heure. Et on se dit « Oh, ben, je me suis relaxée. » Ben non, c'était la phase qui annonçait que ton bébé allait arriver, tu vois. Après, si on la demande, c'est aussi possible qu'il reste encore du temps. Mais comme la péridurale réduit les hormones d'ocytocine, ben ça va obligatoirement réduire le travail. Ça va ensemble, tu vois.
C'est fou, ça, hein, de se dire que ça réduit les hormones.
Et oui, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et je lisais un énorme bouquin sur les hormones et il y avait des études qui montraient un groupe de femmes avec et sans péridurale. Et on en a besoin énormément. Donc ça, c'est une autre peur, croyance qu'on peut avoir, c'est l'hémorragie du postpartum. Donc une fois qu'on accouche le placenta, on a peur de faire une hémorragie. Et c'est peut-être aussi les peurs que le personnel médical va nous mettre si jamais on veut accoucher à la maison, si jamais on ne veut pas de péridurale, si jamais on ne veut pas d'injection d'ocytocine de synthèse, donc d'hormones de synthèse. En fait, on voit que l'ocytocine, elle augmente. Et juste après la naissance, il y a un énorme pic parce que ça permet de fermer les vaisseaux sanguins. Donc, juste après que le placenta sort, ça ferme les vaisseaux sanguins, donc ça évite les hémorragies. Et quand ces femmes qui ont la péridurale, donc dans ces deux groupes, en fait, la leur, au lieu d'augmenter et d'avoir un pic, elles descendaient. Donc, elles avaient une réduction de leurs propres hormones qui augmentait juste un petit peu après la naissance. Donc, cette peur d'hémorragie du postpartum, en fait, c'est à cause de justement de ces déclenchements, à cause de toute cette surmédicalisation. Mmh. Parce que quand on déclenche aussi, ben, on va injecter des hormones de synthèse. Et le corps, quand il a reçu des hormones de synthèse pendant trop longtemps, les propres récepteurs d'hormones naturelles, ils marchent moins bien. Et oui. Donc, on a moins la facilité de produire ses propres hormones. Et comme on sait que nos hormones naturelles sont beaucoup plus efficaces, et ben ça fait que ben on a plus d'hémorragie par la suite.
C'est exactement comme les drogues, hein. C'est-à-dire, enfin, je fais une comparaison parce que c'est hyper parlant. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre une drogue qui permet d'augmenter la dopamine, et ben après on a la fameuse descente parce que du coup notre cerveau n'est plus habitué à produire sa propre dopamine.
Et donc, ouais, ça doit être avec les récepteurs, je pense que ça doit être c'est ça. En fait, on doit la produire, je pense, mais en fait on n'arrive plus à la recevoir de nos récepteurs, ça et marche ensemble, ouais.
Et ça, c'est, alors ils expliquent en neurologie, en fait c'est parce que entre les synapses ça vient bloquer, bon, dans le cas de la drogue, dans le cas des hormones je pense que c'est peut-être un peu plus complexe, mais dans le cas de la drogue, c'est qu'en fait au niveau des synapses ça vient bloquer le recyclage de la dopamine. Pourquoi on n'est pas tout le temps euphorique? C'est parce qu'en fait, notre dopamine, elle se recycle. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes molécules. Et quand on prend un psychotrope, eh ben, ça va bloquer ce recyclage. Ce qui fait que sur le récepteur, on va recevoir énormément de dopamine. Et du coup, le cerveau, il se dit « Oh bah ok, bah du coup, j'ai plus besoin d'en produire. Ah. Okay, moi, je suis en vacances. C'est pour ça, en fait, qu'après, on le déshabitue à le produire lui-même. Donc, c'est exactement le même principe pour les hormones. C'est-à-dire que si on lui injecte des hormones de synthèse, eh ben, le corps, il va se dire « Oh, bah tranquille, du coup, j'ai plus besoin de le faire.
» Voilà, et ben, tu vois, t'es même pas dans ce domaine et t'as compris.
Oui, bah moi, j'adore tout ce qui touche à la neurologie, ça me passionne. Et c'est fou comme... Je me fais souvent cette grande réflexion où je me dis, dans notre monde moderne, on a vraiment construit plein d'outils qui sont censés nous faciliter la vie, mais finalement, qui ne sont pas du tout adaptés à notre physiologie. Il n'y a qu'à voir les toilettes. Les toilettes, ce n'est pas adapté à notre physiologie pour faire la grosse commission.
Oui, il faudrait qu'on ait les jambes plus haut, plus
on est censé être accroupi pour que ce soit droit, en fait, pour que le côlon, voilà, ça puisse être droit et donc pouvoir défecter vraiment en facilité, sans douleur, etc. Alors que d'être assis, ça fait que c'est tordu, donc c'est beaucoup moins pratique. Et je me fais, voilà, toujours cette grande réflexion de me dire, on a créé plein d'outils modernes qui ne sont finalement pour nous faciliter la vie, mais qui ne sont au final pas du tout adaptés à l'être humain. Par peur. Par croyance aussi que c'est comme ça qu'on aura plus de confort. Il y a cette très belle phrase qu'une chamane indigène que je connais me disait
En fait, ça a commencé à dérailler quand l'être humain a pensé que la nature était contre lui, c'est-à-dire que la nature n'était pas confortable et qu'il devait donc produire des outils pour être plus confortable en dehors de cette nature. Et je trouve ça très vrai. Enfin, c'est... Et effectivement, toutes les croyances au sujet de l'accouchement rejoignent ce sujet.
Ouais, parce que après, c'est sûr que y a des situations où on a besoin d'être à l'hôpital, on a besoin d'avoir une césarienne. Après, à quel niveau, tu vois, est-ce qu'un bébé en siège c'est obligatoire? Je sais qu'on dit aux femmes, ton bassin il est trop petit, sauf que le bassin il s'ouvre pendant l'accouchement, donc c'est en fait ce qui me fait moins mal, tu vois, c'est de dire à ces femmes qu'elles sont pas capables alors qu'elles le sont. Et quand tu parles des toilettes, moi je pourrais te parler du lit d'accouchement avec les pieds dans l'étrier. Ça, oui. c'est la position la moins physiologique. Et sauf que quand on est accouché par un gynéco, un obstétricien, eux ils savent pas faire autrement. Parce qu'eux, ils sont formés à la pathologie. Donc, c'est ça aussi de peut-être se dire, moi, je veux un accouchement physiologique, je n'ai pas de problème de peut-être être suivie par une sage-femme au lieu d'être suivie par un gynéco. Parce qu'une sage-femme, c'est formée à la physiologie, et un gynéco, c'est formé à la pathologie.
Alors, justement, on en revient au sujet. Comment est-ce qu'on peut accoucher chez soi sereinement sans sage-femme? Donc, ça veut dire... inviter des amis qui ont déjà vécu des accouchements, je sais pas, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet?
Alors, je pense que le premier truc, c'est de faire un énorme travail sur soi. On fait pas ça comme ça. Enfin, les femmes qui le font, elles sont responsables. Et en fait, c'est ça, c'est de la responsabilité de se remettre à soi, mais du début à la fin, même certaines qui n'ont pas de suivi pour grossesse, hein, parce que quelque part, encore une fois, c'est pas une maladie. Pourquoi est-ce qu'on doit aller faire des échos tous les mois? Je sais qu'il y en a, des prises de sang, etc. On le sent quand il y a quelque chose qui va pas. Si on écoute son corps, après, voilà, ça dépend à quel degré on est de conscience avec son corps, et évidemment. De faire ce travail, de remettre la responsabilité. Donc là, tu m'as dit d'accoucher sans personne, donc sans assistance médicale. C'est ça qu'on veut dire, on peut avoir des amis, on peut avoir une doula, on peut avoir son conjoint, conjointe, on peut avoir ses enfants, ses autres enfants. Mais sans assistance médicale, c'est quelque part prendre la responsabilité entière de son accouchement. Mais ça va aussi jusqu'à déjà de se dire que de base, il ne va rien se passer de mal. Donc il n'y a pas de risque d'accoucher. Déjà de ça, et de se dire que si jamais il y a quelque chose, en fait, j'ai vu des témoignages de femmes qui sont allées jusque là où il y a eu un bébé qui est mort né, seul chez elle, et en fait qui avait pris la responsabilité de cet accouchement, mais du début à la fin, et qui ont pris la responsabilité en fait qu'il se soit passé ça, tu vois. Est-ce que s'il y avait une sage-femme, ils auraient mis la responsabilité sur elle, que c'était sa faute, que cet enfant était mort par exemple? Et que normalement, c'est rare que ça arrive, que quand on va le sentir, si jamais la femme, elle le sait, il y a beaucoup de femmes qui se sont déplacées alors qu'elles avaient décidé d'accoucher seule chez elles, parce que justement, elles ont senti qu'il y avait quelque chose. Et en effet, il y avait bien quelque chose. Et donc là, elles se sont rendues. Donc c'est d'être responsable de son accouchement et aussi d'être responsable de se dire, si je sens qu'il y a quelque chose, j'irai. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Mais donc, voilà, déjà, je pense que le premier truc, c'est de faire un gros travail sur ses peurs, de se dire l'hémorragie du postpartum, ça arrive parce qu'il y a des interventions, parce qu'il y a ces hormones synthétiques. En temps général, ça n'arrive pas. Comme je te disais, de connaître les étapes, de connaître cette phase où justement on va passer un peu en mode... J'ai peur, je veux arrêter, je veux aller à la maternité, je veux appeler les pompiers, toute cette phase-là. De savoir aussi qu'un cordon autour du cou, ça c'est une croyance énorme, ce n'est pas grave, c'est normal. Un bébé qui naît avec le cordon autour du cou, il y en a un nombre incalculable, sauf que on n'en parle pas, ou alors les sages-femmes elles l'enlèvent sans rien dire, donc on ne le sait même pas. Et ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, le bébé, même j'ai vu même des fois plusieurs tours, hein, le bébé, en fait, il est accroché au placenta, et c'est le placenta qui lui donne de l'oxygène. Donc, il n'est pas étouffé parce qu'il a un cordon autour du cou. Et instinctivement, quand on va attraper son bébé, en fait, on va l'enlever, ce cordon. Donc, il ne va pas rester assez longtemps, de toute façon.
Et c'est là où... Ce qui peut être dangereux, c'est peut-être si c'est trop serré, je ne sais pas. Peut-être s'il y a un effet d'étranglement.
Oui, mais bon, ça, si tu veux, on va l'enlever tout de suite dès que le bébé sort, tu vois. Après, c'est aussi, est-ce qu'il est trop court et que, justement, il a du mal. Je sais qu'on a déjà coupé des cordons parce que, soi-disant, il était trop court et que le bébé n'arrivait pas à sortir. Donc ça, c'est aussi autre chose que je ne comprends pas. Qu'il y ait un problème comme ça, c'est quelque chose, mais que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on coupe encore les cordons des bébés immédiatement, alors qu'on sait, il y a des études sur justement le fait qu'on leur prive de 30% de leur sang, donc c'est quand même énorme. Et surtout s'il y a des problèmes, ben, peut-être un cordon autour du cou, qu'il y a eu, peu importe des choses, ben, en fait, il continue de recevoir toutes les bonnes choses de sa maman avec le cordon, et surtout tout son sang.
Quand est-ce qu'il faut le couper ?
Eh ben, il faudrait le couper quand il est blanc et mou, donc ça veut dire que, en fait, quand on pourrait toucher, on pourrait voir déjà, il est un peu bleu parce qu'il y a tout le sang dedans, et il est dur parce qu'il y a encore du sang qui circule. Et quand on le touche et qu'il est blanc, qu'il est mou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang dedans. Et quelque part, on n'aurait presque même pas besoin de clamper le cordon avant de couper, parce qu'il n'y aura pas de sang qui va sortir. On pourrait presque juste couper comme ça, et puis mettre un nœud ou quelque chose du côté du bébé pour assurer qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent à l'intérieur. Mais techniquement, on n'aurait presque pas besoin de clamper, parce qu'il n'y a plus de sang dedans, tu vois. Il n'y aura pas de sang qui va couler. Et ça, ça permet, même il y a des effets à long terme, l'anémie, etc. On les voit à un an d'âge qui est un problème avec ceux qui ont été clampés immédiatement. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore la norme. Donc quand on est chez nous, ben, on fait ce qu'on veut. Ça aussi, d'avoir son bébé sur soi. Donc là, on va produire encore plus d'ocytocine, parce que c'est voilà, l'hormone de l'amour, de sentir son nouveau-né sur soi juste après qu'il soit né. Bah, là aussi, encore une fois, on va éviter les hémorragies, parce qu'on va produire les ocytocines pour contracter les vaisseaux sanguins, et éviter pour qu'ils se referment, et éviter l'hémorragie. Donc voilà, quand on est chez soi, bah, souvent on n'est pas perturbé, on n'est pas dérangé par qui que ce soit. Mais si on est en maternité, de vraiment de garder son bébé sur soi et de faire attention, parce que là, ils ont tendance à nous injecter l'ocytocine de synthèse sans rien nous dire. Donc, si on l'a écrit dans son projet de naissance, bon, ils ont peut-être un peu plus de mal à le faire, mais si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas demandé, ben, ils vont automatiquement l'injecter.
D'accord.
Donc, à savoir. Après, si on a une péridurale, c'est peut-être mieux de laisser, je ne sais pas. D'avoir son bébé sur soi, normalement ça suffit, mais ils ont aussi à injecter en fait ces hormones pour l'hémorragie, parce que on nous a pris nos bébés, tu vois, je sais pas nous comment on est né, est-ce qu'on est resté une heure en peau à peau avec nos mamans? Je pense pas à notre époque. Ils prenaient les bébés pour les nettoyer, pour les regarder, pour les peser, alors que ça peut attendre. Oui. Même, je dirais, pour presque attendre le lendemain, quoi. Mais en tout cas, ça peut vraiment attendre les deux heures qui suivent la naissance.
Oui, oui, oui. Ma mère, pareil, elle a été rebelle pour ça.
Ah, super.
Et pendant la grossesse, alors, comment on peut bien vivre sa grossesse? Quels sont les conseils que tu peux donner aussi pour préparer à l'accouchement? Et notamment... Bon, après, il n'y a pas de mode d'emploi pour éviter d'inculquer des croyances à son bébé, mais en tout cas, les croyances subconscientes, elles arrivent dès la vie intra-utérine. Donc, toi, quels sont les conseils que tu donnerais pendant la grossesse pour vivre une belle grossesse et pour que le bébé se sente en sécurité?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est voilà, de s'informer, de faire confiance, de comprendre que son corps, il sait faire. Voilà, comme je disais, il sait faire grandir son bébé, il a su ovuler, il saura l'accoucher. Donc, presque si on ne fait rien, ça se fera, hein. Personne n'est resté enceinte toute leur vie. Donc déjà, de se faire confiance en son corps, de connaître un peu la physiologie pour qu'il y ait moins de peur. Parce que dès qu'on a peur des choses qu'on ne connaît pas, ben, c'est là où on fait confiance à quelqu'un qui, un sachant. Donc de reprendre son pouvoir déjà dès la grossesse. Et je trouve aussi que si tout va bien, moi je parle d'une grossesse qui va bien, après il y a vraiment, parfois il y a du diabète, il y a de la pré-éclampsie, donc tout ça c'est aussi des choses qu'on peut gérer avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie. C'est pas mon domaine, je pourrais renvoyer si besoin, mais voilà, l'alimentation ça peut jouer un rôle sur ces maladies de grossesse. Mais une grossesse qui se passe bien, je pense que mon meilleur conseil ce serait de réduire le nombre de suivis. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui... Je sais qu'il y a... Rien n'est obligatoire, mais on va dire entre guillemets obligatoire, 2 à 3 échographies chaque trimestre. Je sais qu'il y a aussi des femmes qui sont suivies par des gynécos et qui voient leur bébé chaque mois, si ce n'est plus. Et ces échographies, ce n'est pas non plus 100% vrai. On peut faire des erreurs suivant comment le bébé est placé, suivant qui c'est qui regarde l'échographie, suivant plein de choses. Et il y a beaucoup de femmes qui se prennent des frayeurs en plein milieu de leur grossesse parce qu'on leur a dit quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien. Donc, soit c'est parce que le dialogue, la communication de ces personnels médicaux est tellement technique qu'en fait on croit qu'il y a un problème, mais en fait il n'y a pas de problème, on a juste c'est un fait, il y a ça comme si, ou il y a le placenta, ça j'entends, oh, mon placenta il est trop bas, on me dit ça à 20 et quelques semaines, ou 26, enfin le placenta remonte, c'est normal, il va pas rester là. Si à la fin il est bas, bon ben c'est un problème et c'est une césarienne obligatoire. Mais si le placenta il est bas, si le bébé il a la tête en haut avant, mais même à 6 mois, on m'a dit mais c'est pas un problème, il a encore le temps de bouger. Et en fait on met des peurs à ces mamans tout le long de leur grossesse, on les infantilise. Et ça c'est vraiment le truc le plus qui fait le plus de dommages, je trouve. Par exemple, nous, en Angleterre, il y avait un toucher sur le ventre, une mesurée, puis on testait l'urine et c'était tout, voilà. Il n'y avait pas de prise de sang, voilà. Et moi, j'ai vécu une grossesse sereine, parce qu'en fait, même s'il y avait eu un truc et puis qu'après, il n'y avait plus, on a dit à une maman qu'il y avait quelque chose avec le foie et que c'était un signe de diabète. Et le mois d'après, elle a refait l'écho avec quelqu'un d'autre, et en fait, il n'y avait rien. Donc elle, pendant un mois, elle a eu peur, elle s'est dit oh, « je fais un diabète, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» etc. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Donc si on se sent bien, s'il n'y a pas de problème, je dirais de... Je sais que c'est bien de voir son bébé. Après, on ne connaît pas les effets que ça a de mettre des ondes comme ça sur un bébé. Longtemps, on sait que ce n'est pas bon. Pendant une durée longue, pendant une séance. Après, de le faire tous les mois, je ne sais pas, c'est quand même très proche du bébé. Dans le doute, j'éviterai de le faire souvent, et surtout pour éviter d'avoir des mauvaises nouvelles qui sont peut-être rien, ou alors justement d'entendre des choses qui sont juste des faits et qui ne sont pas graves, mais comme eux, c'est tellement normal pour eux, ils oublient de dire « oui, votre placenta, il est bas ». Mais c'est normal, il va remonter au fur et à mesure de la grossesse parce que votre utérus, il va grandir et donc ça va monter avec votre utérus. Ou, bah oui, votre bébé, il a bougé, mais si vous revenez demain, peut-être que sa tête, elle sera en bas. Tant que c'est pas... Et encore une fois, hein, on peut accoucher d'un bébé en siège par voie basse, mais tant que c'est pas à la fin, il n'y a pas besoin de le mentionner, tu vois. Donc si on évite peut-être trop de surveillance, parce que encore une fois, on n'est pas malade, hein. Je sais que c'est sympa de voir son bébé, mais ça peut peut-être parfois nous mettre des croyances dans la tête alors que tout va bien.
Ouais, c'est vraiment écouter son corps et son intuition.
Mmh. Et c'est vrai que c'est dur, on se dit « oui, mais moi, j'ai pas une bonne intuition ». On peut tous y travailler, mais c'est peut-être là, tu vois, et surtout que l'accouchement, c'est... Il y a des moments dans ta vie où, qui vont être transformateurs, tu vois. Et peut-être que tu as un accident et ça va te transformer. Et maintenant, tu vas dire, bah non, maintenant, je ne veux plus vivre ma vie comme ça, etc., tu vois. Mais l'accouchement, c'est vraiment... c'est une période comme ça. C'est une période de transition qui est énorme. Tu passes de femme à maman, d'homme à papa, de coparent, enfin, tu vois, tout ça. Et surtout pour la femme, avec toutes ces hormones qu'on a dit, ça... ça gère tellement ta vie. À ce moment-là, ça peut être soit tu as vécu une belle expérience et ça te transforme, mais c'est incroyable la transformation que ça te fait. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu fais, t'es transformée. Et par contre, si jamais ça a été compliqué, là, ça peut vraiment te... Il y a beaucoup de femmes qui partent en dépression du postpartum, par exemple. Et ça peut vraiment te casser. Parce que justement, tu n'as pas eu ces hormones. Souvent, c'est pour ça que les expériences sont compliquées. Parce qu'elles ont pas... Il y a eu beaucoup d'interventions. Ou il y a eu une péridurale qui a affecté en fait les hormones. Et si on n'a pas ce cocktail d'hormones, on a un manque en fait après. Et c'est déjà qu'on... Je trouve, même moi qui ai eu toutes mes hormones, etc. On te met un bébé et techniquement, tu ne connais pas cet enfant. On t'a mis quelqu'un sur toi. On pourrait te mettre le bébé de quelqu'un d'autre. Peut-être tu saurais même pas, tu vois. Je me dis... Je sais pas. En tout cas, t'es là, t'as un inconnu vers toi. Et maintenant, tu dois t'occuper de ce bébé. Et les hormones d'ocytocine, tout ça, d'endorphine, toutes ces hormones qu'on a eues pendant l'accouchement, elles facilitent l'attachement avec son bébé. Mais aussi, une sorte de satisfaction de prendre soin de cet être humain. Et si on a tout ce manque, en fait, on va se sentir un peu déconnecté. Et des fois, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas l'instinct maternel. Et pour moi, je pense que ça vient de là, tu vois. Et après, l'instinct maternel, pour moi, c'est pas non plus, ben, j'aime mon enfant, je fais tout pour lui. Il y a une sorte de facilité dans la difficulté, évidemment. Tu vois, après... Alors, pendant le postpartum, ça va être dur, ton bébé va pleurer, tu vas pas savoir pourquoi. Mais quelque part, quand tu as eu tout ce cocktail d'hormones, tu vas réussir à se dire, bah tiens, là, je vais essayer ça. Et peut-être que ça va marcher. Ou alors, je vais aller chercher l'information. Et si ça marche pas, tu vas aussi te dire, attends, là, ça marche pas, il faut que j'essaye autre chose. Et tu as une sorte de facilité à essayer de trouver des solutions, je trouve. Plus que quand, justement, ça a été compliqué, t'as moins peur, t'as plus confiance en toi, ta capacité à être parent, et avoir confiance en ton bébé aussi. Parce que vous avez accouché ensemble et vous avez fait confiance ensemble.
Exactement, oui. J'avais mon instructrice de Theta Healing qui disait il faut à la fois que la femme ait la force d'accoucher, mais que le bébé aussi ait la force de sortir. On est deux, en fait. On n'est pas seul.
On n'est pas seul. Et aussi, le coparent qui est là reçoit sa dose d'ocytocine. Donc, s'ils sont là et que l'accouchement se passe bien et qu'il est plein d'hormones, et ben, eux aussi vont avoir en fait, cette facilité après à être un parent. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, pour moi, d'avoir une expérience positive. Après, ça peut être aussi un accouchement avec une péridurale, une césarienne, mais tant qu'on savait qu'on avait des choix, qu'on a pris les décisions, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir avoir une expérience positive. Donc, c'est soit complètement physiologique et là, on s'en remet aux hormones pour nous dicter un peu notre vie. Ou alors, c'est qu'on a pu décider de ce qu'on voulait pour son accouchement.
Génial. Laura, on approche à la fin de ce podcast et j'aime bien donc toujours poser cette question en fin de podcast. Alors, je vais un peu la modifier pour toi.
Ok.
Penses-tu que les femmes sont illimitées ?
Oui, moi je pense que la femme, ouais, elle est illimitée. Une fois qu'elle a fait le travail sur justement ses croyances, qu'elle a fait le travail sur... Avec l'accouchement, je trouve que c'est vraiment là où tu t'expandes. Ou c'est, t'étais toi, t'étais une femme, et là, quand t'as vécu quelque chose, et surtout, je dirais même ces enfantements seuls, avec vraiment toi, et ton bébé, c'est là où tu en ressors une femme, différente, illimitée, qui, elle sait qu'elle peut tout faire, en fait. Elle a quand même donné naissance toute seule. Elle a vécu ça, elle a réussi à créer la vie dans son corps à partir d'une petite graine et de son œuf. Elle a réussi à créer la vie et elle a réussi à le sortir et elle sait faire. Son confiance, la femme, elle sait.
Génial, Laura. Merci infiniment. Je pense qu'on a vraiment bien remis en question là, toutes les croyances au sujet de la grossesse et de l'accouchement. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi, c'était super de parler ça et j'espère que je suis restée dans le sujet quand même.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire, c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!